Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, on vous raconte des histoires sur RTL, les contes de Perrault au menu de notre curiosité. Bonjour Patricia Bouchenaud-Deschamps.
Bonjour, merci la bienvenue.
De m'accueillir.
Bienvenue, vous êtes historienne.
On adore les histoires, vous savez, donc vous êtes au bon endroit.
Vous êtes au bon endroit, vous êtes donc historienne. On va commencer par présenter Charles Perrault en quelques mots. C'était qui ?
Charles Perrault en quelques mots, c'est un peu une gageure parce que c'est à la fois, c'est un tout. C'est à la fois une vie atypique, c'est une carrière méconnue et c'est une œuvre paradoxale. Donc on va essayer de...
Et c'est à quelle époque ?
Alors là, par contre, ça c'est simple, c'est le XVIIe siècle, il naît sous Louis XIII, sa jeunesse c'est la Fronde, et il va, toute sa carrière, c'est le règne de Louis XIV.
Autre question peut-être simple aussi à poser, et à laquelle vous pouvez répondre, combien de contes il a écrit Charles Perrault ?
Pas si simple. Écoutez, ce qui est absolument certain et qu'il revendique, ce sont trois. En vert, donc Griselidis, Podane, L'Esprit Ridicule, huit autres qui ont été rédigés ou qui sont parus sous un autre nom, on en parlera tout à l'heure.
Oui. Donc, sous le nom de son fils, c'est ça ?
Sous le nom de son fils, donc une histoire assez incroyable avec une préface de son fils. Et donc là, on a La Belle au Bois Dormant, Le Petit Chaperon Rouge, La Barbe Bleue, Le Chaboté, Les Fées, Cendrillon, Riquet, Riquet à la Loupe et Le Petit Poucet.
Des contes dont nous avons tous en tête une version édulcorée, celle de Disney.
Notamment.
Mais quelles sont les vraies histoires ? Réponse à venir, les curieux.
RTL Matin, Yves Calvi.
Chaque matin, François Langlais est à nos côtés pour vous faire comprendre l'économie.
L'Angléco.
Le PIB, ça n'est jamais qu'une photographie d'un an d'économie française.
Rendre l'économie concrète et accessible, c'est le défi quotidien de François Langlais.
Dès que l'emploi ou le pouvoir d'achat augmente, notre demande à l'étranger progresse.
Merci François, on vous retrouve chaque matin à 7h40 sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Faut faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage, le passage et le lavage. C'est vraiment de l'esclavage.
RTL. Curieuse, curieux.
Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Extrait de Podane, extrait de deux films de Walt Disney, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant. C'est évidemment l'histoire des contes de Perrault que l'on vous propose dans la curiosité avec notre invitée, l'historienne Patricia Bouchenaud-Deschamps. C'est vrai qu'on a ces versions dessins animés, Walt Disney ou d'autres, qui sont des versions... quoi, édulcoré des contes de Perrault, on peut dire ça ?
Oui, je pense qu'on peut le dire. Ce sont des versions qui, toutes en fait, sont fondées sur la version de Grimm, qui, 200 ans en fait, après les premières versions écrites, 150 ans après Perrault, a allégé tout cela. Donc en fait, Perrault, ce sont quoi ? Ce sont des contes, c'est un vieux fond de contes. Et ce sont des contes transmis de manière orale, mais aussi des contes qu'il avait dans son extraordinaire bibliothèque. Il faut imaginer Perrault entouré d'une bibliothèque absolument fabuleuse que lui avait offerte son frère, qui avait appartenu à un très grand académicien. Et dans cette bibliothèque, il y a des ouvrages qui sont la base de ces contes et où sont racontés tous ces contes, en plus en italien, des traditions rapportées d'un peu partout.
Et c'est
une caverne d'Ali Baba.
Oui, parce que ces contes, en fait, ils ont souvent traversé le temps, les siècles. Si on prend Cendrillon, je crois que la première version, ça vient de Chine, c'est ça, de l'an 1000.
Alors on a Chine.
On est sûr d'abord.
Alors oui. Chine l'an 1000, mais on va même au-delà. Sous dans l'Antiquité, on trouve en Égypte une première Cendrillon, une esclave grecque qui est emportée. Et là, un aigle, pendant qu'elle se baigne, un aigle vient prendre sa pantoufle et va la déposer au pied d'un pharaon. Donc vous voyez, on est dans des histoires déjà racontées dès le premier siècle.
Et les versions qu'on connaît nous de Cendrillon, même si elles sont un peu rudes, la vie de Cendrillon est pas très drôle. On découvre qu'elles sont pires finalement, que le quotidien de Cendrillon était atroce et qu'on n'a pas gardé tout le côté un peu sanguinaire de son histoire.
Alors les
dans premières... la version de Perrault, est-ce que c'est sanguinaire?
Alors dans la version de Perrault, on est sur quelque chose où, si vous voulez, nous sommes au XVIIe siècle et donc la bienséance, l'élégance a été introduite. C'est-à-dire que du coup, on arrive sur un réalisme. On n'est pas sur le sanguinaire avec les sœurs qui vont se couper les orteils. bouteille pour pouvoir rentrer dans, une, dans la pantoufle.
Ça, c'était dans une version italienne, si je me souviens bien.
Dans la version italienne originale, dans laquelle Perrault et d'autres ont puisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cendrillon, on a quand même 345 versions de Cendrillon qui ont été écrites. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable. On a 333 versions au cinéma, on a une dizaine d'opéras. Enfin, on est vraiment sur un fond très, très riche.
Et donc la scène est plus élégante.
Alors, sa version est plus élégante. C'est une version qui est à la fois plus élégante. C'est une version qui, contrairement à toutes les autres, s'achève par une morale. Ce sont des contes chez Perrault qui sont assortis de moralité. Et là, il y a quelque chose qui est très joli, qui a une dimension spirituelle qui n'existe nulle part ailleurs, qui est celle du pardon, puisque Cendrillon pardonne à ses sœurs. Et ça, on ne trouve ça nulle part ailleurs. Les psychologues vont s'interroger en disant on ne peut pas comprendre, mais voilà, c'est la version de Perrault.
Patricia Bouchenaud-Deschin, vous publiez une biographie de Charles Perrault aux éditions Fayard. Est-ce qu'il a inventé certains de ses contes ?
Alors, il reprend un vieux fond, il se sert de tous ses matériaux. Le seul conte qui n'avait jamais été écrit, mais qui est transmis par les vieilles, c'est le conte du Petit Chaperon Rouge. Mais tous les autres, ce sont donc des reprises, même celui-là, il reprend. En revanche, s'il reprend les thématiques, il invente de manière extraordinaire l'intégralité des détails.
Pour le Petit Chaperon Rouge, le Petit Chaperon Rouge qu'on voit ou qu'on lit aujourd'hui parle d'une enfant. Dans la version de Charles Perrault, c'est quoi ? C'est plutôt l'initiation d'une jeune fille ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
Alors, il y a là aussi différentes versions du Petit Chaperon Rouge. Charles Perrault, lui, c'est très simple. C'est le conte raconte l'histoire d'une mère un peu folle, d'une grand-mère également folle. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le sens commun. La mère envoie sa petite fille. On est bien sur une petite fille.
C'est une enfant.
Dans la forêt. Oui, c'est une enfant. Dans la forêt, comme ça, avec son petit panier. Quant à la grand-mère, elle est aussi folle d'ouvrir au loup.
La porte au loup.
Mais la moralité s'adresse aux jeunes filles. Donc, il y a un double aspect. Son Petit Chaperon Rouge est écrit dans des conditions très spéciales, à une époque où il y a eu la recrudescence des loups. Donc, on a jusqu'aux abords de Versailles et de Paris, on enterre des adultes et des enfants, les membres, ceux qui restent, parce que ça a été bouffé par les loups. Mmh. Donc, c'est une vraie actualité. Et inversement, on a une moralité pour les jeunes filles, parce que le loup peut prendre les apparences d'un beau jeune homme.
Et oui, évidemment. Charles Perrault, c'est aussi une vie romanesque, un proche de Louis XIV, un original, organisateur de fêtes grandes. On découvre ce grand destin français juste après la pause sur RTL.
RTL. De 14h à 15h, la curiosité est un vilain défaut. Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Toujours avec l'historienne Patricia Bouchenaud-Deschin qui nous révèle les secrets de Charles Perrault, ce grand conteur. C'est vrai que ses contes font encore partie de notre quotidien, de nos soirées avec nos petits enfants ou nos enfants tout court. Pourtant, il est né le 12 janvier 1628, il y a 390 ans, ça fait quand même un bail. Dans quel milieu social vient-il au monde ?
Alors, il vient de la grande bourgeoisie française, mais une bourgeoisie provinciale, et donc les pieds sur terre, et pas forcément dans des tripes d'ascension sociale comme pouvaient être formatés les autres personnages qui vivaient à Paris ou à la cour.
Donc, on l'a laissé devenir un artiste, en quelque sorte.
Exactement. Il a certes un grand-père brodeur du roi, un père avocat, mais on l'a laissé faire un peu ce qu'il voulait, ce qui est déjà assez moderne.
Il aurait dû être avocat quand même.
Alors, il aurait dû être avocat, mais il reçoit surtout une formation littéraire extrêmement poussée. Il est surtout très, 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 très doué pour versifier. Et donc, on est vraiment sur un personnage qui reçoit une culture très complète dans un milieu avec des frères et sœurs, une sœur qu'il perd, qui meurt malheureusement jeune et qui va constituer un vrai traumatisme pour sa mère, entre autres. Donc, les relations entre Perrault et sa mère sont compliquées et cela permet peut-être aussi d'expliquer le choix de ses contes. Pourquoi a-t-il écrit ces 8 ou 9 contes alors que dans le fond déjà rédigé, il y en a une cinquantaine dans lesquels il aurait pu en choisir d'autres. Eh bien, certainement, il a tiré dans sa vie sa place de petit dernier avec un jumeau également mortaux. Tous les éléments qui vont constituer cette très belle sensibilité qui fait de lui avant tout un écrivain.
Comment vous pouvez nous raconter tout ça aujourd'hui, Patricia Bouchenaud-Deschin ? Comment vous avez pu reconstituer la vie de Charles Perrault ?
Alors, il y a des documents qui sont extraordinaires, qui sont un peu le Graal de tout écrivain, c'est retrouver alors on est en pleine actualité aujourd'hui, c'est les testaments des personnages que l'on traque.
Imaginons un historien dans 100 ans, 150 ans, 200 qui retrouve le testament de Johnny. Oh,
sinon, il y a le podcast de la curiosité.
Je ferme la parenthèse.
Le testament et les inventaires. Ces fameux inventaires après décès qui, à l'époque, étaient faits avec une minutie extraordinaire. Vous rentrez dans cette pièce et on vous décrit objet par objet ce qu'il y a. Donc on décrit non seulement une maison, on commence toujours par la cuisine, avec jusqu'au détail de la pince à feu et la table, ce qu'il y a dans le frigidaire. Enfin, il n'y a pas de frigidaire à l'époque.
Donc ça permet de donner le cadre de vie.
Donc le cadre de vie, on a les papiers, on a la richesse, on a les tableaux, s'il y en a, on a le contenu de la bibliothèque, etc. Donc ça, c'est la chose qui nous manquait pour Perrault. Et j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur l'inventaire de son grand-père. Donc j'ai pu rentrer chez ses grands-parents à Tours. J'ai trouvé l'inventaire de sa femme, un truc absolument incroyable, réalisé 20 ans après sa mort, 5 ans avant la propre mort de Perrault, ce qui veut dire que dans des conditions absolument abracadabrantesques et véritablement tragiques. Et puis,
donc il y a de la richesse, pardon.
Donc,
parce que,
voilà. Qu'est-ce que vous trouvez ? C'est ça qu'il voulait.
Entre autres.
Eh bien non, ce qui est très intéressant chez Perrault, il y a, oui, une star, c'est quelqu'un d'aisé, on ne va pas dire le contraire. Il a hérité de maisons, de ses parents, de ses grands-parents, mais ce n'est pas quelqu'un qui a accumulé, c'est quelqu'un qui a même beaucoup dépensé dans des registres assez étonnants comme celui de l'art. Et surtout, ce qui reste le plus important pour lui, c'est ce qui est une œuvre gravée, imprimée, et il s'est ruiné pour ça.
Donc vous parlez de l'art, ça nous emmène sur le rôle que Charles Perrault a joué auprès de Louis XIV.
Absolument.
D'abord, comment il rentre à la cour ? Comment il devient un proche ou un intime, je ne sais pas quel terme employer, du roi Soleil ?
Alors, à l'époque, pour se faire repérer du roi, eh bien, il fallait déjà avoir une belle plume. On est à ce moment-là, Louis XIV vient de se débarrasser de Fouquet, vient de prendre le pouvoir, et il a besoin non seulement d'exister en tant que roi, mais de faire bâtir sa gloire. Il a auprès de lui quelqu'un qui s'appelle Colbert, qui avait été au service de Mazarin, et l'un et l'autre avaient déjà repéré Charles Perrault pour sa capacité.
Mais c'est-à-dire que Charles Perrault va écrire un portrait des louanges de Louis XIV ?
Il écrit ce qu'on appelle des odes, des poèmes, à l'occasion de son mariage, à l'occasion de son avènement, de son mariage, de toutes les occasions, il se fait repérer. Et on va lui donner une copie qui est la prise de Dunkerque, un sujet un peu politique, un peu délicat, et il va très habilement s'en tirer. Et là, banco, il est engagé.
Charles Perrault ne va pas faire qu'écrire sur Louis XIV, il va aussi organiser des fêtes pour lui.
Alors, il va écrire, mais savoir écrire, ça veut dire aussi écrire pas simplement sur du papier, c'est écrire sur les médailles que l'on diffuse dans toute l'Europe, c'est écrire des devises sur les bâtiments. Plus elles sont courtes, mieux elles sont, à condition de rester claires. Il va surtout diriger les grands chantiers, par Versailles, le Louvre, etc. Il va propager cette gloire du roi absolument partout. Et c'est donc véritablement son rôle. Alors les fêtes...
Alors les fêtes, vous savez quoi ? Je vous interromps, on va se les garder pour juste après.
Parce qu'on n'est pas
habillé. Voilà, il faut s'habiller pour aller à Versailles. Parce que finalement, c'est un monsieur communication que vous êtes en train de nous décrire. Pas seulement un ministre de la Culture, un monsieur comme. C'était aussi ça, Charles Perrault. Restez avec nous.
Il était une fois un couple de bûcherons qui avait 7 enfants.
RTL.
Le plus jeune était né si petit qu'au premier jour de sa vie, sa taille ne dépassait pas celle d'un pouce.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On l'appela donc le petit pousset.
La curiosité est un vilain défaut.
Le petit pousset lu par Henri Dès. On découvre l'histoire de Charles Perrault, l'auteur de tant de contes qui nous accompagnent depuis qu'on est enfant. Perrault né il y a bientôt 4 siècles. On est toujours avec l'historienne Patricia Bouchenaud-Deschin. Ces fêtes alors qu'il organisait, puisqu'il est resté 20 ans à la cour, au service de Louis XIV, un peu ministre de la Culture, au pouvoir, un peu chargé d'écrire finalement la geste du roi. Ces fêtes, ça ressemblait à quoi ?
Alors, c'est quelque chose qui a absolument fasciné l'Europe, d'autant plus que ça a été gravé. Ça correspond à toute la première partie du règne de Louis XIV. On a en tête celles qui ont été gravées, mais il y a eu toutes les autres. Et c'est quelque chose, ce sont des moments uniques dans l'histoire où le roi se met en scène, où la cour se met en scène. Alors, peu importe la dépense, parce que c'est quelque chose qui va non seulement plaire au peuple, mais qui plaît à l'ensemble, parce que ça donne une idée...
Oui, mais c'est quoi ? Il y a des feux d'artifice ?
Oui, il y a des feux d'artifice, il y a des opéras, il y a des pièces de théâtre, il y a des courses de bagues, il y a toutes ces spectacles, des bals, etc., tous ces spectacles qui vont fasciner tout le monde.
Et il y a notamment une fête mémorable dans l'histoire de Charles Perrault et Louis XIV, c'est la fête de la ville de Paris. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est exceptionnel?
Moi, j'ai bien aimé le vin dans les gouttières, c'est pour ça que je vais qu'on raconte ça.
Oui, mais alors ça, c'est juste après qu'il ait été pincé du pouvoir. Ouais. En fait, Colbert va finir par se débarrasser de Perrault, puisqu'il a ses propres fils qu'il faut qu'il case. Et donc, voilà, très élégamment, Perrault va se retrouver au placard, ça peut arriver à toute époque. Et Perrault, en plus, perd sa femme, déprime un peu, et au moment de la naissance du duc de Bourgogne, il ne peut pas participer, il ne participe pas à toutes ces fêtes données par Louis XIV, mais lui, à son tour, il va donner une fête dans Paris, invraisemblable, avec des grandes illuminations, des feux d'artifice, etc., sur sa terrasse, et tout à coup, les gens qui sont là, écoutent ça, reçoivent, non pas une pluie, mais du vin de, vraisemblablement de Bourgogne. Il a écrit en même temps un opéra qui va être donné à la cour, etc. C'est un personnage, mais qui est baroque, drôle, très drôle. Perrault est quelqu'un de drôle.
C'est un original.
C'est un original. Boileau,
pour l'époque.
Boileau dira qu'il est même un peu bizarre, que c'était une famille de bizarres, parce qu'on est quand même, il faut juste dire un tout petit mot. Perrault, ce sont les contes, et puis c'est surtout la grande querelle des anciens et des modernes, puisque Perrault, c'est le champion des modernes.
C'est quoi les modernes?
Les modernes, ce sont des gens qui, certes, trouvent l'Antiquité intéressante, mais ils estiment que le présent, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a tous les progrès de la technologie, de la science, etc.
Et où se passe cette bataille?
C'est une bataille de toute éternité, mais que Perrault réactive en jetant un pavé dans la mare de l'Académie française dont il avait fait partie. On lui doit l'organisation actuelle de cette Académie française. C'est lui qui va jeter ce pavé dans la mare et évidemment, contre lui, s'opposeront à la fois Boileau et Racine.
Patricia Bouchenaud-Deschaint, dans votre livre, vous laissez entendre que Charles Perrault serait transformé un peu en Barbe Bleue à la fin de sa vie. C'est quoi cette histoire?
Je vous laisse la lire, mais c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable, effectivement, d'une fin de vie qui est plus sanglante qu'on ne pouvait l'imaginer.
Il a mangé des petits-enfants?
Alors, il n'a pas mangé des petits-enfants, non, mais c'est une histoire qui se termine dans le sang, effectivement.
Il meurt à l'âge de 75 ans, je crois. Oui. Il est riche, il est célèbre. Est-ce qu'il est célèbre, tiens?
La richesse,
on en a parlé, est-ce qu'il est célèbre?
Alors, il est célèbre, il est très connu, c'est vraiment le champion des modernes. Toute l'Académie française de l'époque avait pris parti pour lui. Il a énormément publié, bien moins que tout ce qu'il a pu écrire. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas riche pour autant parce qu'il a beaucoup dépensé. Et c'est un des points noirs de son histoire et qui va participer à ce côté-là.
Il y avait quelque chose dans le testament quand même? Il a légué ou il a déshérité
ses enfants? Oui.
Eh bien, il y a une histoire comme cela.
Vous gardez beaucoup de mystères
pour
lire votre livre aux éditions Fayard.
Il faut lire ce Perrault signé Patricia Bouchenaud-Deschaint. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio sur RTL. Merci.
Vous écoutez RTL.